Voyage.
Bien-être et santé.
Musique.
Mode et beauté.
Trucs et astuces. Dans
100% Lifestyle.
Bonsoir les amis, vous êtes bien sur RDL 103.5 FM, mais également depuis le player internet RDL68.fr. J'espère que vous avez passé une belle journée, soit de solidarité, soit de repos dans le canapé ou près du barbecue, comme vous le voulez. Mais en tout cas, c'est jeudi de l'Ascension. Mais même si c'est férié, nous, on est là. Bonsoir Yann.
Bonsoir Anne-Claire, bonsoir à tous. Et toi, comment tu as passé cette très belle journée ensoleillée alors?
Écoute, dans mon bain de soleil, je vois pas où j'aurais pu la passer autrement.
Meilleur moment, meilleur endroit.
Exactement, avec le petit cocktail et les glaçons. Rien de mieux pour profiter d'une belle journée ensoleillée, surtout que ces derniers temps ça s'est fait rare et avant que le week-end se gâte, il fallait en profiter.
C'est pas faux, et en plus on termine en beauté ensemble cette journée avec 100% Lifestyle bien sûr.
Allez, c'est parti pour leur faire découvrir l'émission. Qui les attend? Est-ce que t'es prêt pour le sommaire?
Mais moi je suis fin prêt, et toi?
Alors c'est parti pour le sommaire tout de suite. On démarrera avec En route pour l'aventure, 5 îles d'Océanie peu connues dans le monde.
Et puis on poursuivra ensuite avec ta minute soignante, Anne-Claire, autour des alternatives durables aux protections hygiéniques. J'ai envie de dire tout un programme.
Exactement, c'est tout un programme, mais c'est surtout une chronique d'actualité parce que vous savez que vous venez le lendemain de la journée de la précarité menstruelle avec une loi qui est passée mais qui n'est toujours pas réellement votée ni de décret. Et donc du coup, les moins de 26 ans n'ont toujours pas accès aux protections menstruelles remboursées par la Sécurité sociale. Et c'est avec Dalida qu'on poursuit, sans transition. Mais je sais que Dalida, de où elle est aussi concernée par le sujet. Et c'est surtout Mourir sur scène en 1983 qui nous intéressera pour Chanson Story.
Et qui nous concerne, effectivement. Et puis d'ailleurs, Mourir sur scène n'était pas destiné à Dalida. Au départ, elle l'a refusé et on saura à qui dans un instant.
Encore un tube dans lequel on va tout découvrir, j'ai hâte.
Exactement. Et puis on poursuivra ensuite avec la question des auditeurs. Et puis c'est vrai, une très bonne question aussi. On va se demander comment les mots entrent-ils dans le dictionnaire. Et c'est toi, Anne-Claire, qui nous apportera la réponse.
À la fin de l'année scolaire, certes, alors du coup, vous doutez bien que je n'ai pas les mots de 2025, mais j'ai ceux de 2024, alors du coup, on est bon.
Effectivement, et puis on terminera avec ton mode et beauté, la fragrance du printemps et de l'été pour femmes. On entre bientôt dans l'été.
Exactement, mais c'est sans compter sur le piégeons-nous, la chronique de la fin, la chronique pour bien l'envoyer sur le vendredi. Et c'est sans plus attendre qu'on va commencer avec En route pour l'aventure. Et tout de suite, on part à la découverte des 5 îles d'Océanie peu connues dans le monde.
Ah oui, ce soir, on voyage, hein. mais loin, très loin.
C'est ce que je vois, effectivement.
Ah oui, à l'autre bout du monde, en Océanie, à la découverte de toutes petites îles, mais tellement pas connues qu'on ne saurait même pas les situer sur une carte. Autant qu'à faire, autant découvrir ces fameuses îles-là. Et c'est là que je vous emmène en visite guidée virtuelle sur 5 d'entre elles, parmi les 300 000 îles au total quand même, hein, que comporterait notre monde. Il y en a beaucoup, Anne-Claire. Hein.
Ah oui, quand même.
Ah oui, quand même. Hein.
Ça fait beaucoup.
Bon, je vous rassure, on va pas toutes les faire ce soir. Hein, ça va pas le faire, c'est pas possible.
Bah, sinon, je crois qu'on est encore là jusqu'à 2h du matin. Alors, c'est pas que je veux pas rester, mais j'ai une vie quand même en dehors de la radio. Oui.
Je comprends, moi aussi, je comprends.
D'accord.
Ouais, je comprends, je compatis.
On commence tout de suite alors et on va dans une république qui est située en Océanie. On va visiter les Palaos.
Ah oui, c'est bien les Palaos parce qu'en fait, c'est une république, mais de 250 îles. Eh oui.
Il y en a pas beaucoup, je comprends pas.
Bah oui, bah surtout que la plupart sont pas, voire peu habités, donc en même temps.
Parfait.
Ah bah oui, c'est bien pour toi ça. Alors c'est à 3 heures d'avion des Philippines, hein, les Palaos. Le lieu se découvre idéalement en kayak, hein. Tu peux faire aussi du snorkeling, c'est observer les fonds marins en flottant à la surface de l'eau, tu sais, sans plonger. C'est ça, le snorkeling, c'est très prisé aussi dans les Palaos. Et ça permet de découvrir le lac aux méduses. Ah oui, c'est son nom. Alors bon, rassurez-vous, les méduses, elles piquent plus là-haut. Hein. Non. Par contre, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est dépaysement garanti. C'est l'un des plus beaux paysages sous-marins au monde. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le commandant Cousteau. Donc c'est vous dire, si Cousteau et Palaos, ça ne rime pas pour rien non plus. Hein. Et au Palaos, t'as aussi beaucoup d'îles calcaires et volcaniques. T'as aussi une forêt émeraude entourée d'un lagon turquoise. C'est très très beau et c'est même historique puisque tu as des vestiges aussi de la Seconde Guerre mondiale hein, qui sont d'ailleurs disséminés dans la jungle. Ça c'est beaucoup moins connu. Alors bon, malheureusement il n'y a pas de vol direct hein, de la France pour y aller. Vous pouvez partir des Philippines ou de Taïwan pour vous y rendre hein, directement. Et à noter que c'est une république, donc un président qui est élu hein, tous les 4 ans parce que les dates sont basées sur les élections américaines. Les Palaos appartenaient aux États-Unis jusqu'à leur indépendance en 1994.
Ah d'accord, ok, mais maintenant, donc comme ils ont pris leur indépendance, ils ont malgré tout gardé les mêmes dates.
Ouais, exactement.
Histoire de ne pas bousculer tout le monde.
Voilà, exactement. Après, ça fait que 30 ans hein, du coup, hein, donc ça reste assez récent hein, malgré tout. Hein. Mais oui, ils sont calés sur les mêmes dates américaines, voilà.
Et mais si on partait à la découverte d'une autre île, cette fois tout à fait méconnue, mais en même temps, est-ce que les Palaos étaient connus de nous? Non.
Non.
Donc on retourne sur une île méconnue. C'est Samoa. Est-ce que tu... À mon avis, j'espère pour toi, parce que moi, je ne sais pas du tout où est-ce que ça se situe.
Alors, si je te dis dans l'océan Pacifique Sud,
oui,
à 4h10 d'avion d'Auckland, c'est tout au nord de la Nouvelle-Zélande, c'est là que se trouve Samoa. En fait, la Samoa appartenait autrefois à la Nouvelle-Zélande jusqu'à son indépendance en 1962. Donc là aussi, c'est assez récent, hein, à peine 60 ans. Et tu as deux Samoa, techniquement. Tu as les îles Samoa américaines, à l'est, et tu as les îles Samoa occidentales, ben à l'ouest. Forcément.
Forcément.
Voilà. Ah bah oui, forcément. Et puis, justement, nous, on va s'intéresser au côté occidental un petit peu, puisqu'on plonge dans un fonctionnement quelque peu différent de la France. Tu as, par exemple, le FONO, c'est l'Assemblée législative des Samoa, qui élit le président. Alors, actuellement, c'est Valetoa Swalovi II. Ouais, non, c'était juste pour se mettre dans l'ambiance, en fait. Parce que...
Ça, c'est compliqué.
Oui, c'est juste que tu prononces le nom, ça se met dans l'ambiance. Voilà, tout simplement. Des Samoa, ou même de la région, hein, d'ailleurs, aux alentours. Et alors là-bas, c'est la douceur de vivre avec ses plages paradisiaques. T'as aussi ses spécialités culinaires, comme le oka. C'est un poisson mariné dans du jus de citron vert et de lait de coco. Et t'as aussi le humu, qui est un four enterré sur un lit de braise hein, et de pierres volcaniques dans des feuilles de bananier. Et tiens, en parlant de terre volcanique, eh ben, il y en a aussi à Samoa, avec la visite du village de Salelola, ou comment en fait l'éruption hein, du volcan local a détruit 5 villages de ce territoire entre 1905 et 1911. Hein. Ça se visite, ou en tout cas tu peux marcher parmi les épaisseurs de lave hein, qui recouvrent bah, les églises et les maisons de ce village. Hein. C'est assez beaucoup moins gai, hein, mais voilà, malheureusement ça fait partie de l'histoire hein, de Samoa. Et puis, tu peux aussi découvrir les traditions qui ont tendance à se perdre, hélas, hein, et que les anciennes générations tentent de maintenir, comme par exemple le tatouage à la peinture sur écorce ou le tissage du toga. Ce sont des nattes fines, hein, traditionnelles, à partir de la plante de pandanus. Et puis, c'est aussi à Samoa qu'est enterré le célèbre Robert Louis Stevenson. C'est l'auteur de L'île au trésor, hein, qui a vécu pendant les 5 dernières années de sa vie à Samoa. Et il s'est même beaucoup impliqué hein, dans la vie locale, notamment par la défense des droits des Samoans hein, contre les colons allemands qui se partageaient l'île à l'époque avec les Américains hein, pendant quelques années. T'as même une maison, sa propre maison, qui est un musée et que tu peux visiter.
Oh, super intéressant ça.
Il y a quand même malgré tout des choses à faire, heureusement culturelles, à Samoa comme ailleurs.
Mais oui, mais de toute façon, il faut s'adapter aux traditions et aux cultures différentes quand on va dans un pays.
Exactement.
Nous, ça peut nous choquer en tant qu'occidentaux, mais eux, les insulaires, eh ben, ça ne les dérangera pas.
Exactement, t'as tout compris.
Une autre île au nom étrange. En même temps, les déjà deux îles qu'on a visitées étaient déjà étranges. On part sur les îles Kiribati.
Ouais, ce sont 3 archipels hein, perdus en plein milieu de l'Océanie qui découragent souvent les voyageurs internationaux hein, parce qu'il y a que 12 000 touristes chaque année. Hein. C'est pas énorme hein, quand même.
C'est bien du coup, ça laisse leur tranquillité aux insulaires.
Exactement, puis ça permet également de préserver l'île hein, quelque part. Hein. C'est ça
fait.
Aussi.
N'en parlons pas trop. Alors du coup, je te propose de faire la chronique à voix basse.
D'accord. Ah bah écoute, c'est en mode ASMR, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Pour être sûr que les autres des 12 000 touristes déjà allés là-bas, qui nous entendent pas trop pour pas aller dénaturer le site.
Alors bon, le petit souci, c'est que malheureusement, ces îles Giripati sont directement en première ligne du réchauffement climatique, hein, puisque face à la montée des eaux, progressivement, toutes les îles Giripati disparaissent.
Bon bah c'est loupé. Écoute, bah on va faire la chronique à haute voix. C'est mort.
Tant qu'à faire, autant en profiter. J'allais dire pour découvrir leur riche histoire, hein, puisque le pays a appartenu au Royaume-Uni jusqu'en 1979. Il est toujours membre du Commonwealth, malgré tout, mais oui. Et les Kiribatiens payent en dollars australiens. Alors là, par contre, il va falloir m'expliquer. Royaume-Uni, dollars, mais australiens, enfin, c'est pas... Voilà. Mais c'est...
Oui, mais l'Australie, elle faisait pas partie du Commonwealth, à un moment donné ?
Si, elle en fait toujours partie.
Elle en fait toujours partie.
Ouais, en Océanie.
Ah bah du coup, ça me semble logique, parce que du coup, ils ont pris la monnaie du pays... Enfin, du pays le
Commonwealth,
plus proche d'eux.
Mais ouais, du pays le plus proche d'eux, quoi.
Ouais, c'est ce que je pense, en tout cas.
Ouais, c'est une très bonne analyse. J'avais pas fait le rapprochement, pour être honnête.
Je trouve ça plus logique, parce que du coup, entre vol interne, enfin, je dirais vol interne, mais c'est plus de l'international malgré tout. Du coup, leur monnaie est aussi valable quand ils vont en Australie et les pays adjacents autour, plutôt que d'avoir pris la monnaie du Royaume-Uni avec les pennies, etc., qui du coup, bah, forcément, les enfermerait et les enclaverait un peu plus que ce qu'ils ne sont.
C'est beaucoup plus loin géographiquement, effectivement, le Royaume-Uni que l'Australie. Donc du coup, tant qu'à faire, d'autant qu'en plus, les îles Kiribati, c'est l'un des plus petits pays au monde en termes de superficie de ses terres. Ça ne fait que 811 mètres carrés. Mais alors par contre, attention, ils peuvent revendiquer plus de 3 millions de kilomètres carrés de surface maritime. Ah, forcément, les îles sont étendues, donc t'as de l'eau partout, forcément. Et donc t'as du sable, t'as des coraux, t'as des paysages magnifiques. Bon, t'as pas beaucoup de choses à voir, on va pas se mentir, c'est tellement dispersé que voilà, il n'y a pas grand-chose non plus. Par contre, à noter qu'il existe un village aux îles Kiribati qui s'appelle Londres. Et t'as aussi un endroit inhabité qui s'appelle Paris.
Ah, sympa.
Donc voilà, les Parisiens, c'est aussi aux îles Kiribati quelque part. Mais écoute, ils vivent pas là-bas.
Oui, mais ça peut être sympa malgré tout à visiter.
Ah oui, Bon, c'est très isolé, mais effectivement, ça peut, si vous êtes aventurier.
Est-ce que 1000 km plus bas, du côté du sud des Kiribati, entre Hawaï et l'Australie, on part sur le pays le moins visité du monde? Alors encore moins visité que la ville de Paris?
Ouais, 3000 touristes chaque année. On le courage parce que croyez-moi, il en faut pour aller à Tuvalu. C'est aussi l'un des plus petits pays au monde, indépendant seulement depuis 1978.
Oh, c'est tout neuf.
Ouais, en plus, il n'y a que 11 000 habitants.
Ah oui, sympa.
C'est plus ou moins l'équivalent de la ville de Cernay, quelque part, chez nous.
J'aime beaucoup.
C'est te dire, c'est un archipel polynésien. Et tiens, on parlait du réchauffement climatique pour les îles Kiribati. Bah, malheureusement, c'est un peu pareil pour les Tuvalu aussi, qui pourrait être la première île, d'ailleurs, à disparaître et pour cause, puisque sur l'île principale, concentrant 63% de la population répartie sur 1,6 km², 46% du bâti situé au centre de l'îlot se situe en dessous du niveau de la mer, ce qui fait que forcément, ça aggrave beaucoup les choses. À noter aussi que la plupart des Tuvaluans, c'est leur nom, habitent dans des villages autour d'une église et d'une maneapa. C'est une place publique dans la langue de Tuvalu. Elle vit majoritairement de la pêche, cette île. Et il y a aussi le costume traditionnel très important pour les femmes, qui comprend le kolos avec des jupes, des robes ou des chemisiers fabriqués au crochet. T'as aussi des jupes réservées aux danses cérémonielles, faites de feuilles, de pandanus, on les retrouve. Et puis, les femmes portent aussi des coiffes faites de fleurs. Et bien évidemment, ces coiffes ne sont pas conçues au hasard, puisque leur technique de fabrication indique le statut social et l'âge aussi de celles qui les portent. D'autant que les Tuvaluans aiment bien sûr la danse, comme la fatelle, c'est la danse traditionnelle, qui se constitue de gestes très calmes, lents, principalement avec les bras. Tu sais, nous, on a un peu genre le yoga, par exemple. Eux, ils ont cette danse, la fatelle.
Alors, tu sais, ça me fait penser plutôt aux danses thaïsienne.
Ah ouais, aussi.
Avec les femmes là-bas, quand elles dansent les danses thaïsiennes. Alors, me demande pas comment ça s'appelle.
Moi non plus,
je suis pas douée pour vous donner le nom. Mais souvent, les jupes sont faites en feuilles de bananier ou palmier ou même les deux mélangées. Et elles portent des couronnes également, indiquant leur classe sociale et leur âge. Et bien souvent, c'est des danses assez calmes, assez traditionnelles, avec des rituels. Et du coup, ça me fait vraiment pensé à ça. Enfin, la connexion entre les deux, du coup, m'a fait penser à Tahiti.
Bah, c'est vrai que Tahiti, c'est aussi dans l'océan Pacifique, hein. Donc, c'est à quelques milliers de kilomètres près. C'est pas si loin. En quelques milliers de kilomètres près,
oui,
après tout.
Un tour de canoë et puis on y est.
Oh, bah oui, surtout dans l'océan Pacifique.
Voilà.
Oui.
Moi, je propose qu'on continue en canoë pour finir sur les îles Pitcairn. Encore plus isolées que toutes celles dont on a parlé. Donc, prévoyez un canoë assez grand parce qu'à mon avis, eh ben, il faut faire le voyage pour y aller.
Ouais, un paquebot, hein, carrément. Est-ce que tu vois où se trouve l'Australie, Anne-Claire ?
Oui, ça, c'est bon.
Alors, t'as le Chili qui est à l'ouest de l'Amérique du Sud.
Oui.
Ça aussi.
C'est bon.
Eh ben. Entre les deux, entre l'Australie pardon, et le Chili, tu as l'océan Pacifique. Et en plein milieu de cet océan, eh ben, tu as les îles Pitcairn.
Ah
voilà.
Oui.
Eh oui, tu
as... Juste là, paumé entre...
Ouais, c'est ça. Alors, sur une carte, tu as la carte du monde, tu les vois pas, hein, parce que c'est tellement petit. T'as quatre îles, juste quatre, hein. Et sur les quatre îles, t'en as qu'une qui est habitée. Et c'est de loin pas la plus grande.
Ah bah moi, je vais aller habiter sur une des trois autres, alors.
Ah bah si tu veux, même la seule habitée, il n'y a qu'un seul village en fait, hein, pour forcément capitale, Adamstown, il n'y a que 50 habitants.
Oh bah tout ce qu'il me faut.
Ah bah
écoute, je fais mes bagages.
Oh bah écoute, avec grand plaisir, je t'accompagne. Ces habitants font partie de 9 familles résidant sur l'île, vraisemblablement descendants de mutins d'un bateau à la fin du 18e siècle qui aurait accosté pour ne pas être retrouvé après avoir déclenché une mutinerie à bord. Et autant vous dire qu'il n'y a que 25 bateaux touristiques qui arrivent sur cette île chaque année.
Donc... Ah oui, non, mais c'est pas beaucoup. Mais alors par contre, du coup, si le village fait 50 personnes et que nous deux on arrive, ça fera 52. Moi, je trouve qu'il va y avoir un problème. Mais non, mais on sera déjà trop.
Ah non, faut tuer deux personnes, c'est ça, pour rester
à 5
ans. Ah, d'accord. Bon, il y a un musée quand même qu'on peut visiter, histoire de pas s'ennuyer quand même sur ces îles. T'as des hébergements confortables aussi, des randonnées, quelques excursions. Mais alors attention, les îles Pitcairn sont tellement isolées qu'un navire de ravitaillement vient de Nouvelle-Zélande tous les 3 mois. Avec un médecin à bord, et que la marine nationale française, avec la Polynésie française la plus proche géographiquement, effectue des missions régulières de ravitaillement. L'isolement est garanti, les îles Pitcairn, c'est le seul territoire britannique d'outre-mer dans l'océan Pacifique qui paye en dollars néo-zélandais cette fois.
Bah oui, forcément, puisqu'ils sont proches.
Ah bah oui, géographiquement, bah oui, forcément. Et puis tiens, vu qu'on parle du Pacifique, je vous propose, juste avant ta minute soignante, et ben d'écouter le groupe Pacifique. Et oui, en 1990, ils ont signé un tube, Quand tu serres mon corps. Je vous propose, sans plus attendre, d'écouter cette chanson. Et puis juste après, ce sera au tour de ta minute soignante, Anne-Claire. Alors, changement de sujet total, là par contre. Les alternatives durables aux protections hygiéniques, mais c'est très important, ça concerne toutes les femmes. On va découvrir ça dans quelques instants. Et puis plein d'autres choses encore à découvrir, toujours sur 100% Lifestyle, sur RDL évidemment. A tout de suite.
C'est toi qui a guidé mes premiers pas dans les jardins secrets de l'amour en liberté. J'ai appris à subir la loi, esclave de tes bras. J'ai oublié la peur, la honte et les remords. Quand tu serres mon corps, tout contre ton corps, comme un volcan qui dort, se réveille encore. Je suis faible, sans arme, prise au piège d'un charme trop fort. Quand tu serres mon
ça, ça nous fait rêver quand même, hein, quand tu serres mon corps de Pacifique. T'as envie d'aller dans le Pacifique, toi, Anne-Claire ?
Alors, ça te fait rêver, serrer ton corps si tu veux, mais pas le mien.
Et aller dans le Pacifique, alors ?
Le Pacifique, sans problème.
Non, serrer mon corps, non, c'est pas forcément un fantasme chez moi, non, je te rassure.
Écoute,
non.
Tu fais ce que tu veux avec ton corps, ça ne me concerne pas, je ne veux pas le savoir.
Mais promis, je ne te dirai rien là-dessus. En tout cas, je crois qu'on va parler du corps des femmes, c'est ça, dans la Minute Soignante.
Exactement, après avoir parlé du corps de Yann, on parle du corps des femmes.
C'est ça, sans transition.
Vaut mieux parler
aussi,
du corps des femmes. Hein,
je confirme, c'est pour ça qu'on va enchaîner sur la Minute Soignante. Ah, qu'est-ce qu'on dit pas dans cette émission, hein.
Bah, c'est surtout que moi, je veux bien parler de ton corps, mais bon, je vais pas avoir grand-chose à dire. Alors, sur le corps des femmes, excuse-moi, oui, mais je le maîtrise un peu mieux.
Je confirme, je te rassure, il y a pas grand-chose à dire sur mon corps. Par contre, effectivement, côté alternatif durable aux protections hygiéniques, je pense que c'est surtout bien plus intéressant aussi.
Et oui, surtout que les règles commencent à la puberté et se poursuivent jusqu'à la ménopause. En moyenne, une femme a ses menstruations pendant 30 à 40 ans. Oui, oui, 30 à 40 ans, Yann. Tu te compte un peu. Cela représente une quantité importante de protection hygiénique utilisée au cours de sa vie. Face à une demande croissante pour des solutions écologiques et réutilisables, de nombreuses alternatives se sont popularisées au cours des 10 dernières années. Et voici 3 options durables de protection hygiénique réutilisable. J'en ai sélectionné que 3. Bien entendu, il y en a d'autres, mais vous vous doutez bien que je ne peux pas faire un focus sur toutes les possibilités possibles et inimaginables. Donc j'ai pris celles dont on parle le plus pour faire un focus plus important.
Et effectivement, l'une d'entre elles, hein, dont on parle le plus, c'est la culotte menstruelle.
Ah, je suis sûre que ça te parle.
Ah bah oui, j'en porte tous les jours, c'est bien connu. Vas-y, avec cette, cette idée-là dans la tête.
Je te laisse aller voir à quoi ressemble une culotte menstruelle sur la page 100% Lifestyle de Facebook. Et après, tu me redis si tu la portes tous les jours. Hein.
Promis, j'y cours.
Voilà. Opter pour une culotte menstruelle, c'est entre 3 et 5 ans de tranquillité. C'est également choisir de laver plutôt que de jeter. De plus en plus de femmes adoptent cette alternative aux protections jetables, permettant de réduire considérablement les déchets. Lavables et réutilisables, il suffit de rincer la culotte à l'eau froide pour éviter de fixer les taches, puis de la laver à la main avec du savon doux, ou bien entendu, vous pouvez aussi opter pour la machine à laver sur un cycle délicat. Et si des taches persistent, vous appliquez un peu d'eau oxygénée et hop le tour, et jouez. Surtout, pas de détergent ni d'assouplissant, c'est complètement contre-indiqué, sauf si vous voulez bousiller ce que vous venez d'acheter à 25 euros. Et encore,
ah, ouais,
25 euros, c'est le tarif
gentil,
le moins cher.
Ouais, non,
aujourd'hui, il existe une grande variété de modèles. Culottes, shorties, maillot de bain, boxer, string. Tu préfères quelle option, Yann, après avoir vu sur la page Facebook ?
Ouais, là, le boxer, non, c'est bien.
D'accord. Eh ben, écoute, le boxer pour Yann, pour tous les jours. Vous avez noté, hein ? Disponible dans toutes les tailles, même les grandes tailles et toutes les couleurs. Oui, 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 vous n'êtes pas obligé de prendre que du noir, du gris ou du blanc. Il en existe de toutes les couleurs. Presque invisibles sous les vêtements, les culottes de règles sont confortables, sans odeur et ne donnent pas l'impression de porter une protection hygiénique. Fabriquées dans des matériaux doux et respirants, leurs coussinets intégrés absorbent efficacement le flux grâce à leurs différentes capacités d'absorption. Parce que bien entendu, nous n'avons pas toutes le même flux, donc forcément les culottes, les boxers, les maillots de bain, tout ce que vous voulez, mais menstruelles et culottes menstruelles ont forcément des niveaux d'absorption différents et qui s'adaptent à vous. Ces culottes épousent parfaitement votre corps, réduisent au maximum les risques de fuite, que ce soit en journée ou en pleine nuit, oui parce qu'il en existe aussi des spéciales nuits. Sans produits chimiques ni parfums, elles minimisent les risques d'irritation cutanée également.
Effectivement, je viens de voir, je crois en plus, la prochaine partie, la deuxième option, je suis pas sûr que je veuille la prendre, celle-là, vois-tu.
Écoute, tu prends l'option que tu préfères, mais nous avons tous retenu, et les auditeurs également, que tu prenais pour le moment, l'option boxer menstruel. Je te repose la question à la fin de la chronique et tu me diras.
Ok, on fait comme ça.
Moi je veux encore tout donner, recevoir l'amour et l'espoir sans rien calculer. Moi je veux encore émouvoir, accepter les craintes, les jours noirs et les allégés. Je veux vivre fort, être moi et une autre, car personne ne devra jamais me juger.
Je sais avoir tort, être reine ou soldat, c'est tout ça qu'il y a dans la réalité.
D'une femme avec toutes ses couleurs, avec ses forces et ses peurs.
Et bien sûr, après la culotte menstruelle, eh bien on passe maintenant à la coupe menstruelle, aussi appelée cup, hein, je crois.
Exactement. Conçue en forme de cône ou arrondie, fabriquée en silicone médical, caoutchouc ou thermoplastique, elle s'insère dans le vagin pendant les règles. Une fois en place, elle s'ouvre et forme une étanchéité, empêchant les fuites, pouvant être portée entre 4 et maximum 6 heures. S'il vous plaît, ne dépassez pas les heures, sinon bonjour. Infections, bactéries et tout ce que je vous ai parlé la semaine dernière, je vous laisse aller le retrouver sur le podcast, je vous garantis que ça vaut le détour. Donc au bout de 6 heures, on le retire, c'est indispensable de vider, rincer et remettre en place le tout avec des mains propres, s'il vous plaît. On va dans des toilettes avec un lavabo, sinon, eh ben, on change de toilette. C'est hypoallergénique, elle ne se perturbe pas la flore vaginale, limite les risques de mycose, elle peut durer entre 5 et 10 ans. Il faut la nettoyer à l'eau tiède avec un savon doux, en évitant les produits chimiques agressifs et nettoyants abrasifs. À la fin de chaque cycle et avant le début du prochain, il est impératif de la stériliser. Oui, oui, vous avez bien entendu, on la fait bouillir dans de l'eau pendant 5 minutes pour éliminer toute bactérie pour une hygiène optimale. Cela peut être aussi fait en cours de cycle si nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. Mais moi, cependant, je vous le recommande parce qu'on va peut-être éviter de se mettre une bactérie là où on n'en a pas besoin.
Toi, tu pensais, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Et on poursuit avec la serviette hygiénique lavable, la troisième option. Donc.
Et la troisième option, tu n'as plus que peu de temps pour réfléchir à ce que tu préfères. Fabriquée avec des matériaux de haute qualité comme le coton biologique ou le bambou, elle utilise des fibres naturelles diminuant le risque de sensibilité cutanée. Elle préserve la biodiversité en n'utilisant ni parfum ni agent chimique assurant la biodégradabilité. Les serviettes réutilisables permettent à la peau de respirer et absorbent l'humidité sans générer de mauvaises odeurs grâce à leurs bonnes aérations. Faciles d'entretien, elles sont utilisées pendant 3 à 5 ans si l'on respecte les recommandations. Elle se nettoie comme les culottes menstruelles citées plus tôt, disponible en différentes tailles, de 15 à 35 cm. Oui, 35 cm, je vous laisse mesurer, mais oui, on en a besoin. Et avec divers niveaux d'absorption, tout comme pour les culottes menstruelles, elle s'adapte au flux de chacune. Plusieurs modèles existent, classiques, discrets, ultra absorbants ou avec des ailes ajustables. Pourquoi continuer à jeter quand on peut laver ?
Bah oui, tant qu'à faire.
Franchement.
Hein. Surtout si on peut économiser.
Exactement. Les protections hygiéniques réutilisables ne sont pas juste une tendance écolo, ce sont de vrais alliés du quotidien. Elles respectent ton corps, sans substances chimiques ni parfums artificiels. Elles chouchoutent ta peau, elles sont confortables, elles te suivent jour et nuit sans fuite, sans stress et surtout, elles te font faire des économies considérables. Imagine un monde où tes règles ne riment pas avec galère, déchets et dépenses, mais avec liberté, douceur et durabilité. Un monde où tu te sens bien dans ton corps et dans ton choix, en phase avec toi-même et avec la planète. Et tout ça sans compromis sur l'efficacité, le confort et le style. Alors que tu sois team culotte, team cup ou team serviette lavable, fais le choix qui te ressemble parce qu'au fond, les vraies règles à suivre sont les tiennes. Mais surtout, la vraie règle à suivre, c'est de savoir... Quelle option a choisi Yann ? Je suis sûre que vous l'attendez tous, très chers auditeurs. Avant de passer à Dalida, je te laisse nous donner ton choix.
Oh bah le boxer pour homme, c'est très bien aussi. Hein.
Ok, mais alors du coup, je te commande la version nuit. Tu verras, c'est d'un confort. Oh là 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 là, mon Dieu.
Ah bah écoute, je note.
Voilà. Que... Et bah, du coup, je vous propose tout de suite de passer sans transition. Parce que, bah, il n'y en a pas, hein. Mais je suis sûre, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dalida aurait été très contente que ces options existent. Donc, tout de suite, c'est Chanson Story. Alors tout de suite, eh bien écoute, je te laisse nous emmener sur Mourir sur scène, mais bon, on va éviter de mourir sur le direct, ça serait mieux. En 1983, et c'est Dalida qui nous a fait ce tube.
Bah oui, tant qu'à faire après les hygiènes menstruelles, et ben mourir, tiens, c'est sans transition aucune. Hein, mais cette
c'est horrible.
Bah oui, mais malheureusement, on n'aurait pas prévu ça. Hein,
oui, mais bon, quand même, après les culottes menstruelles, mourir sur scène,
bah ouais,
on n'est pas obligé de mourir avec les règles.
Bah
non plus.
J'espère bien, mais on n'est pas obligé de mourir tout court, hein, d'ailleurs. Hein,
franchement.
Heureusement,
et
avec
puis
cette...
on ne meurt pas avec les règles. Oh, tu vas nous fâcher les femmes qui nous écoutent.
Ah
hein.
Non, j'ai pas dit ça, c'est juste par rapport à la transition. Mais c'est vrai que bon, mourir sur scène.
Tu ferais bien de t'excuser, je te le dis, moi.
C'est... Bah oui, parce qu'après. Ta chronique, mourir sur scène, bah forcément, moi, je me sens un petit peu petit, quoi. Tu
ah
vois
bah, bah, oui. Tu es petit.
Ah oui, ça, je confirme, oui. Voilà. Surtout que mourir sur scène, c'est issu de l'album Les Petits Mots, sorti en 1983, un classique de Dalida, bien sûr, pour ce tube, avec une histoire incroyable, parce qu'au départ, la chanson n'était pas du tout destinée à Dalida.
Comme à chaque fois que c'est un tube.
Exactement. C'est pour ça que les paroles étaient écrites par Michel Jouveau, hein, qui décrivent l'amour inconditionnel d'un artiste pour la scène, mais il pense plutôt la confier à un homme, comme par exemple Johnny Hallyday.
Impossible.
Eh ben oui, mais heureusement c'est pas lui, puisque c'est le compositeur Jeff Bardell hein, qui pense à Dalida en demandant à l'auteur d'adapter son texte sur la vie de Dalida, puisque 15 ans avant, en 1967, Dalida avait fait une tentative de suicide. Elle le refera, hélas, fatale cette fois 4 ans plus tard, hein, en 1987.
Pauvre Dalida.
Bah ouais, Jeff Bardell enregistre une maquette, la fait écouter à Orlando, et il se trouve embêté.
Orlando Bloom ?
Ouais, non, Orlando tout court, ah. Le frère de Dalida, ouais, plutôt. Bon. Parce qu'en fait, il a déjà choisi un autre texte sur le même thème, du même parolier pour Dalida. Ah bah oui, donc du coup, il hésite entre les deux, mais il promet de faire écouter la chanson à la chanteuse, qui l'écoute hein, attentivement dans un restaurant italien de Paris. Mais voilà, Orlando est obligé hein, de dire la vérité au compositeur. Dalida, elle n'aime pas du tout. Elle refuse le titre, bah oui, carrément.
Impossible.
Ah bah si, au début elle a refusé de la
chanter.
Oh
non, Dalida là je suis pas d'accord, franchement
bah
je suis pas d'accord.
Bah moi non plus, mais bon, Jeff Bardell s'est mis quand même à insister, à convaincre finalement aussi bien Orlando que Dalida que ça ferait un succès hein, si elle la chante. Et puis bah, réflexion faite, Orlando impose carrément à Dalida de l'enregistrer le lendemain, sans grande conviction pour la chanteuse.
Nous voilà sauvés, un tube arrive dans les bacs.
Exactement, et l'ingénieur du son Bernard Estardi en charge de l'enregistrement a alors l'idée d'accélérer le rythme avec une batterie et il demande alors au batteur de revenir. La sortie du disque se fait en 1983, mais Orlando hésite encore entre Les Petits Mots et Mourir sur scène en face A, tu sais, en single, afin de mettre
en
avant.
Me dis pas qu'il l'a mis en face B.
Ah bah si.
Oh non.
Et en face A, ils ont choisi ça.
Tous les mots que l'on se lance, les petits mots de tous les jours, on les croit sans importance, mais ce sont des mots d'amour.
Ah, je suis sûr que t'es déçu là.
Ah, pour déjà avoir vu le 45 tours, malheureusement, je suis désolée, mais tu ne me l'apprends pas. Mais ouais, je suis déçue parce que c'est une chanson qui méritait une face A. Y a-t-il eu une réédition de ce vinyle en face A ?
Alors, tu sais comment ? Elle a été un succès à la base, parce qu'elle est passée inaperçue, hein, à la sortie de l'album, elle était en face B. C'est quand Dalida la chante sur scène lors des émissions des Carpentiers. C'est là que les téléspectateurs demandent à ce qu'elle soit davantage programmée en radio. Et c'est à ce moment-là qu'elle triomphe sous les feux des projecteurs.
Mais c'est Dalida, Dalida est une lumière. Forcément, elle triomphe sous le feu des projecteurs.
Ah bah c'est pour ça que je vous propose sans plus attendre de l'écouter tout de suite. Mourir sur scène, Dalida évidemment, sur RDL. Et puis après, la question des auditeurs sans transition.
Mais ne viens pas quand je serai seule, quand
tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur. Mourir sans la moindre peine au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Souviens-toi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Choisis plutôt un soir de gala si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière. Je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir.
Incontournable, bien sûr. Mourir sur scène de Dalida, sorti déjà en 1983, Anne-Claire.
Oh, sorti déjà en 1983, ça n'empêche que ça reste un tube. Et 1983, ce n'était qu'hier, donc ça reste un tube d'aujourd'hui.
J'adore ça, mais t'as bien raison, Anne-Claire. Et puis même en 1983, d'ailleurs, bah, y avait des mots qui entraient dans le dictionnaire aussi à l'époque. Hein.
Ah bon?
Ah bah oui, j'en suis sûr.
Ce serait pas la prochaine question des auditeurs?
Ah ouais, non mais quel hasard merveilleux, dis donc. Eh ben dans ce cas, c'est parti, voici la question des auditeurs. Alors dis-nous tout, Anne-Claire, comment les mots entrent-ils dans le dictionnaire?
Oui, nous sommes à la fin de l'année scolaire, puisque, allez, on est encore en mai, je vous l'accorde, mais bon. Je pouvais pas faire avant, puisque je n'avais pas les informations avant. Alors du coup, bah, je vous la fais que maintenant. La langue française s'enrichit chaque année de centaines de mots nouveaux. Pourquoi certains d'entre eux trouvent-ils leur place dans les dictionnaires et d'autres non? Nous avons enquêté. Enfin, j'ai surtout enquêté. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, chaque éditeur de dictionnaire est libre de ses choix. La décision d'intégrer des mots nouveaux répond avant tout à une volonté de refléter au mieux la réalité d'une langue.
Avec donc deux critères hein, qui entrent en compte. Et le premier des critères, ah bah c'est bien sûr la fréquence d'utilisation.
Chaque année, les éditeurs de dictionnaires identifient de nouveaux mots issus de la littérature, mais aussi des médias et des réseaux sociaux. Oui, oui, vous êtes épiés aussi par le petit Robert et Larousse. En raison de l'espace limité des versions papier, seuls les termes d'usage fréquents sont sélectionnés. Des ouvrages comme le petit Robert et le petit Larousse, qui comptent déjà plus de 60 000 mots, intègrent environ 150 nouvelles entrées par an.
Ah oui, quand même, ça fait un sacré, nouveau florilège de mots quand même.
Est-ce que tu te rends compte, 150, alors qu'il y en a déjà 60 000 déjà présents?
Ah bah oui, pour dire la même chose que certains autres mots déjà dans le dictionnaire d'ailleurs.
Oh, mais qu'est-ce qu'il est mauvaise langue celui-ci, c'est pas possible.
Mais non, pas du tout.
Si.
C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses.
Et après les mots de Renaud qui a un peu moins de 10 ans, hein, cette chanson mais très très belle hein, je trouve, hein, néanmoins.
Magnifique, je vous conseille de l'écouter en entier et qui a été parfaite pour cette chronique.
Je confirme surtout avec les paroles qu'on vient d'entendre et puis avant on a écouté, avant plutôt on a découvert le premier critère, la fréquence d'utilisation hein, pour entrer de nouveaux mots dans le dictionnaire. Et bien le deuxième critère c'est bien sûr la pérennité tant qu'à faire.
Exactement et c'est souvent l'utilisation d'un néologisme. La définition de néologisme vous la retrouvez dans Petit Robert, non. Je vous épargne. Ce sera le petit Anne-Claire pour ce soir. Et un néologisme, c'est la création d'un nouveau mot. Dans la durée, donc, qui permet d'en mesurer la pertinence. Il est à noter cependant que le processus s'est accéléré pour les éditeurs au moment de la pandémie de Covid-19. Ainsi, les mots coronavirus, Covid, confinement, déconfinement, foyer, cluster, vague ou encore distanciation, oui, ça fait beaucoup, ont fait leur entrée ou l'objet d'une mise à jour. Environ 150 mots font leur apparition dans le dictionnaire chaque année. Pour 2024, je vous ai sélectionné une dizaine de mots parmi les 156. Sinon, on est encore là jusqu'à 2h du matin, sachant qu'on devait déjà être là jusqu'à 2h du matin avec
ouais.
Toutes les îles à découvrir.
300 000, oui.
Bon, bah écoutez, on se dit à la semaine prochaine parce qu'on ne se sera pas quitté. Alors du coup, sont entrés en 2024 les mots instagrammable, éco-anxiété, antisexisme, greenwashing, complosphère, winkfalls, nutriscore, flexoffice, boboisé et malaisant. Alors, allez, je vais interroger Yann, c'est le pied genou avant l'heure. Qu'est-ce que veut dire flex office?
Bah, être dans un bureau de manière un peu flexible, avec les ballons, non? Les ballons gonflables. Je sais pas, j'essaie d'avoir un peu d'imagination.
Non, flex office, c'est tout simplement, tu sais, maintenant, il y a le télétravail, mais il y a aussi le vrai bureau, et pouvoir alterner les deux, ça fait du flex office.
D'accord.
La langue française est riche et magnifique. Utilisons-la pour créer de nouveaux mots comme nous le faisons parfois par inadvertance. Et surtout, parlons, écrivons, car c'est cela qui fait de nous des êtres dotés d'intelligence.
Par contre, malaisant, tu aimes bien, toi, ce terme? Tu l'emploies très souvent?
Oui, moi, j'emploie le terme malaisant, mais je ne l'emploie pas dans Mode et Beauté, parce que Mode et Beauté n'est jamais malaisant.
Ça, je confirme, c'est pour ça que c'est tout de suite. Et on termine avec le parfum, mais qu'est-ce que c'est beau ça, la fragrance du printemps et de l'été, pour femmes toujours.
Eh oui, j'ai sélectionné pour femmes, peut-être je ferai l'homme, mais peut-être que je ne le ferai pas malgré tout, parce que de toute façon, ce qui peut être sélectionné pour une femme peut être sélectionné aussi pour un homme.
T'as bien raison.
Les parfums changent au gré des saisons, les fragrances fruitées et florales sont appréciables pour le printemps, l'été, tandis que les notes boisées, chaleureuses et épicées s'accordent mieux l'hiver. Mais trouver le bon s'avère parfois très compliqué et à force de tous les sentir, l'odorat n'est plus au rendez-vous. Pas de panique, découvrez quelques conseils pour choisir votre parfum, mesdames, ou pourquoi pas vous le faire offrir.
Oh bah tant qu'à faire, ce serait encore mieux. Alors c'est vrai que là, comme on a passé l'hiver, excite les senteurs de l'hiver, place aux douceurs du printemps, bien sûr.
Cette saison, les parfums se font légers, frais et ensoleillés. Au printemps, notre collection de parfums se métamorphose en même temps que notre garde-robe. Au sillage chaud de l'hiver succèdent des fragrances plus fraîches et légères et ensoleillées. Pour cette nouvelle saison, on mise sur des accords floraux, des parfums hespéridés et solaires.
Mais alors dis-nous Anne-Claire, quel parfum adopter pour le printemps 2025 ?
Comme une douce brise sur la nuque ou un rayon de soleil qui vient à peine réchauffer la peau, les parfums que l'on porte au printemps se veulent délicats et quasi imperceptibles. Le jasmin se fait plus transparent, travaillé sans excès pour évoquer la fleur à peine éclose, accompagné de muscle blanc ou de notes de fleurs fraîches comme la tubéreuse, la fleur d'oranger, le magnolia, mais aussi le frangipanier. Le néroli, le gardenia ou encore l'osmanthus, la rose blanche, le narcisse, le lotus blanc ou encore le chèvrefeuille, le muguet et le lys. Elles apportent une odeur de propre tant adorée au parfum pour cette saison où le renouveau est en plein essor. Autre tendance forte, les agrumes, la bergamote, le cédrat ou la mandarine ne cherchent plus à dynamiser à tout prix, mais à offrir une fraîcheur mesurée. Associés à des fonds boisés, clairs, des infusions de thé ou des touches aromatiques discrètes, ces accords gagnent en tenue et en complexité.
Alors après le printemps, ben l'été bien sûr, histoire quand même de poursuivre côté sensation Anne-Claire.
Enfin, les senteurs solaires s'installent doucement, comme un avant-goût d'été, fleurs de tiare, lait de coco, le monoeil et la vanille douce, ou le santal, et je vous vois venir, vous avez déjà les pieds dans le sable. Tout cela nous évoque la chaleur de la peau sous le soleil, les vacances rêvées avec le cocktail à la main et les souvenirs olfactifs d'une plage déserte.
Alors avec tout ça, eau de parfum, eau de toilette, eau de brume, alors dis-nous tout Anne-Claire, laquelle choisir ?
Tout est une question de concentration. La formule la plus concentrée, mais aussi la plus onéreuse, est l'extrait ou l'essence de parfum. En l'appliquant en petites touches, il tient toute la journée. L'eau de parfum plus courante a tendance à s'évaporer un peu plus facilement grâce à une plus grande quantité d'alcool dans sa composition. L'eau de toilette, quant à elle, plus subtile et moins entêtante, s'adapte bien au beau jour. Et le côté de la brume, c'est de la fraîcheur, simplement, sur l'ensemble du corps, mais aussi de la chevelure.
Trois gouttes à peine pour t'éreindre à fleur de peau. Si j'ai doucement de la peine quand il me quitte un peu trop tôt. Tant pis si j'ai le mal de mer quand il pleure le long de mon cou. Ces trois échappées solitaires aux odeurs sucrées d'embrun doux. Je n'ai sur moi rien d'autre que ce parfum. Rien pour me souvenir d'un automne à Paris. Je n'ai sur moi rien d'autre que ce parfum. Rien pour le retenir un peu plus chaque nuit.
Alors bien sûr, sur le parfum de Christina Marocco, dis-nous tout Anne-Claire. Alors le parfum de printemps et d'été, un parfum fugace et doux, c'est ça ?
Et tout à fait, ils évoquent une sensation délicate sur la peau, un souffle léger, presque imperceptible, mais qui laisse une empreinte inoubliable. Et cette saison, les maisons de parfumerie rivalisent de poésie pour nous faire chavirer. Mais avant, encore un petit piégeon nous pour Yann. Quelle est la ville de France où le parfum est maître ?
Oh bah Grasse.
Bravo. Bon.
Ça va.
Heureusement que c'est pas cette question-là.
Ça, hein. Ça va. Ça, tout va bien.
Allez, je vous fais découvrir les plus grandes maisons de parfums avec... je vous emmène avec moi pour vous faire un petit peu découvrir. J'espère que vous avez l'odorat accroché parce que, franchement, c'est un beau voyage qui vous attend. On ouvre le bal avec la fleur d'oranger, star incontestée du printemps. On la retrouve dans Neroli.
Amara de Van Cleef & Arpels, hein, je crois.
Ah mais c'est pas possible, tu connais cette maison de parfum ?
Bah oui quand même, un minimum, je pourrais pas t'en dire plus, mais un minimum quand même.
Bah écoute, dans ce cas-là, moi je te laisse m'impressionner à chaque fois.
Bah écoute, avec grand plaisir.
C'est un parfum lumineux et délicat, comme une promenade dans un jardin méditerranéen au petit matin. Et le meilleur jardin méditerranéen, c'est le jardin d'acclimatation de Monaco. Vient ensuite le jasmin, travaillé tout en transparence, et cette fois on le retrouve dans...
Dans Jasmin des Anges de Dior.
Oh là, il est, c'est beau, il est exceptionnel.
Ou pas.
Une senteur douce aérienne qui évoque une fleur à peine éclose, caressée par une brise tiède dans le cou. Envie de fraîcheur plonge dans l'univers apaisant de...
Thé Matcha 26 de Le Labo.
Oh, on pourrait presque croire qu'il n'a pas les notes sous les yeux.
Surtout que celui-là, je ne le connais pas.
C'est des notes de thé et de figues parfaits pour une journée douce et introspective. Côté agrumes, on craque pour qui ?
Aqua Allegoria, mandarine, basilic de Guerlain.
Oh, mandarine, basilic, je suis sûre que ça vous fait
rêver. Niveau nom, il pourrait faire encore plus long.
Un cocktail vivifiant mélangeant l'énergie de la mandarine à la fraîcheur herbacée du basilic, idéal pour accueillir les beaux jours avec le sourire. J'ai tendance à plus utiliser le basilic en cuisine, moi. Et pour celles qui rêvent déjà de sable chaud, oui, je vous vois venir. Direction l'été avant l'heure, et cette fois, c'est...
Alors ça, c'est Guerlain, je crois. Terracotta, le parfum.
Exactement. Monoï, coco, soleil sur la peau, je vous laisse imaginer, j'ai pas besoin de rajouter de détails, vous y êtes déjà. Les amoureux de la rose se tourneront vers...
Oh bah, rose naturelle de Chloé, facile.
Bravo. Un sillage pur et végétal, comme un bouquet fraîchement cueilli au lever du jour, mais surtout fraîchement offert, parce que ça vaut mieux le détour. Envie d'un voyage sensoriel plus lointain, laisse-toi envoûter par...
Dosson de diptyque.
Je suis sûr que celui-ci, tu le connaissais par cœur, bien sûr.
Évidemment, j'en prends tous les jours.
Un parfum suave et élégant autour de la tubéreuse, à la fois lumineux et mystérieux. Et pour finir en beauté, quelques gouttes de...
De Eau de Soleil Blanc de Tom Ford ou Bronze Goddess d'Estée Lauder. Celui-là, j'ai pas pu l'inventer par contre.
Ah, voilà. Vous avez vu, il a eu un petit peu de mal à démarrer quand même. Moi, je veux pas dire, mais...
Bah, en même temps, plus on passe, plus les noms de parfums sont plus longs. Ils peuvent pas faire des noms de parfums plus courts. Je sais pas, c'est plus facile à retenir.
Ça va pas s'appeler Bim Bam Boom.
Dommage, ça peut être une bonne idée marketing.
Donc, c'est véritable invitation à la paresse estivale entre sable chaud, cocktail fruité et petits pieds dans la piscine ou sur le bord de l'eau du Nil, parce qu'on vient de parler des îles, en admirant le coucher de soleil. Forcément, je sais que je vous ai déjà fait rêver. Des parfums comme des éclats de lumière à choisir selon ton humeur, ton style ou simplement tes envies du moment. Mais peu importe que tu choisisses une rose délicate, un agrume pétillant ou une note solaire de coco, le plus important c'est de porter le parfum qui te fait du bien, celui qui te ressemble et t'enveloppe comme un câlin invisible. Car le secret d'un bon parfum, ce n'est pas seulement sa composition, c'est la personne qui le porte. C'est donc toi, c'est toi Yann le plus important dans le parfum.
Mais toi aussi c'est toi.
Tu l'es à la plus belle note qui rend chaque fragrance unique. Alors fais-toi plaisir, ose, joue, change au gré de tes envies, car parce qu'au printemps comme en été, ton parfum te suit, mais c'est toi, mon très cher Yann et mes très chers auditeurs, qui rayonnez.
Merci beaucoup Anne-Claire, on va se retrouver déjà pour la dernière partie dans quelques instants. Merci pour ta chronique Anne-Claire, à tout de suite.
J'en ai marre de rêver de vous, Jean. J'en ai marre de parler de vous, Jean. J'en peux plus de ne penser qu'à vous, Jean. N'est connu des plus forts que vous, Jean. N'est connu des plus beaux que vous, Jean. N'est connu, mais il n'était pas vous. Jean, j'en rirai dans un mois, dans un an. J'en rirai si vous êtes à l'écran. De tout ça, vous ne savez rien, j'enterre ici comme un petit chien, mon secret tout au fond du jardin. Est-ce la ligne de votre cul, ou vos yeux qui m'ont convaincu, que la vie vaut d'être vécue?
C'était Jean, bien sûr, de Jeanne Chéral sur RDL. Un tout nouveau titre, d'ailleurs, qui vient tout juste de sortir avec Vincent Dedienne, d'ailleurs dans le rôle de Jean, pour le clip qui est à découvrir sur YouTube et qui est très décalé. Tu connaissais cette chanson, Anne-Claire ?
Alors non, je ne connaissais pas, mais surtout ce que je connais, c'est mes auditeurs. Et du coup, moi j'en profite pour leur faire un gros bisou et les remercier de leur écoute. Et d'ailleurs, il y en a une qui m'a murmuré à l'oreillette, parce que oui, à l'oreillette, une auditrice me murmure que tout à l'heure nous avons parlé des danse et notamment de la danse tahitienne et la danse hawaïenne, et on parle de la danse du tamour. Voilà, j'ai enfin trouvé le nom. Alors moi j'embrasse tous nos auditeurs de la plaine d'Alsace qui nous écoutent sur le 103.5 FM. Je sais qu'Yann m'accompagne aussi pour ce bisou, parce que oui, nous vous embrassons. Et on embrasse également tous nos auditeurs du monde entier et de toutes les régions avoisinantes de France et d'ailleurs, parce que les insulaires nous écoutent aussi.
Aussi, bien sûr, voilà. On espère en tout cas.
Donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous prenez bien soin de vous et que vous allez profiter de ce long week-end. Mais c'est sans compter sur profiter du long week-end. D'accord, mais ce sera pas sans le piégeon nous. Alors, mon très cher Yann, une minute chacun, parce que chacune si tu veux, mais...
C'est pour toi, mais c'est pas pour moi.
Voilà, parce que, après tout, tu portes des boxers de nuit menstruels, donc je peux te dire chacune maintenant.
Pourquoi je sens que ça va rester ça?
Voilà, c'est trop tard. Hein.
C'est pas faux.
Voilà. Et tous nos auditeurs sont au courant.
Oui, il y a plein de témoins.
Voilà, je suis désolée. Donc, une minute chacun pour se poser une question et répondre à l'autre, et je te propose que si tu veux, je commence.
Eh bien, avec plaisir, allons-y.
Alors, qui a réalisé la plus grande pizza du monde ?
Il faut que je donne un nom ou une nationalité ?
Un nom, parce que je n'ai pas la nationalité.
Ah, ça va être très compliqué. Alors,
et une personne connue ? Je cherche un nom, pas une nationalité.
Une personne connue ?
Moi, je connaissais. Après, est-ce que toi, tu connais ?
Oui, voilà. Donc, en fait, c'est quelqu'un de pas connu que je ne peux jamais trouver, à part la seule information que je peux avoir, c'est la nationalité, quoi.
C'est pas forcément pas du tout connu, parce qu'à mon avis, vous êtes nombreux, mes très chers auditeurs, à pouvoir mettre Yann dans la panade.
C'est-à-dire ?
Je suis sûre que eux savent.
Oh, je suis pas certain, non ?
Mais si, ils ont une culture générale, eux.
Oui, c'est vrai que tu disais depuis plusieurs mois que Sheila est morte, hein ? On va dire ça. Toi qui pensais qu'elle était morte.
Hein, l'idée qu'elle était morte.
Oh, t'as plus que fortement émis l'idée, hein, quand même. Hein.
Bon, ça n'empêche que nous nous éloignons de la grande pizza. Ils ont quand même fait 1300 mètres carrés de pizza.
Je me demande si c'est pas la France. Je crois que c'est la France est le plus gros consommateur de pizza.
Alors peut-être que la France est le plus gros consommateur, je n'ai pas la réponse.
Oui. Il me semble que c'est ça, mais je te laisse du coup apporter la réponse.
C'est Pizza Hut qui a réalisé 1300 mètres carrés de pizza.
Oui, donc c'était pas un nom en fait.
C'est un nom. Enfin,
c'est une marque, oui, un nom de marque.
T'as pas demandé de préciser, tant pis pour toi.
C'est pas faux, pour la preuve, à moi de me venger avec une énigme rien que pour toi.
Ça tombe bien, chaque semaine il se venge.
Eh oui, surtout à cette heure-ci. Alors dis-moi tout, signe de politesse et ou d'affection, elle peut vous classer le corps en venant du nord-est. Par un, par deux, c'est selon la tradition, chez La Fontaine, elle est venue. Qui est-elle ?
La Fontaine, c'est les fables ?
Les fables, oui. J'ai cru que t'as dit les femmes.
Non, les fables. Une bise ?
Ouais, pourquoi pas ?
Ouais, une bise, moi je vois que ça. Par une ou par deux, oui. Dans certains, c'est même quatre et dans d'autres, c'est que trois. Ouais, je vois que ça, je vois que la bise.
Ah, c'est vrai que la bise, c'est aussi un vent, hein ?
Oui.
Mais est-ce que c'est un vent du nord-est ?
J'en sais rien, moi. Le seul vent que je connais en France, c'est le Mistral et Tramontagne.
Non, le seul vent que je viens de me prendre, c'est toi.
Écoute. Oui.
Parce que, en fait, tu as la bonne réponse. C'était la bise. Bravo, Anne-Claire.
Ah là là, les compteurs sont repartis.
Juste pour une fois seulement, hein. Et dans La cigale et la fourmi, c'est la cigale qui se trouve dépourvue quand la bise fut venue.
Oh.
Eh oui. D'accord.
Écoute, je ne connaissais pas cette fable. Moi, ma fable préférée, c'est le lion et le rat. Mais surtout, la fable préférée de nos auditeurs, c'est peut-être la sonnerie qu'ils entendent tout de suite. Alors oui, il est 20h, il est l'heure de se quitter. Mais vous pouvez bien entendu retrouver l'ensemble de nos podcasts de toutes les précédentes émissions sur rdl68.fr, mais aussi sur soundcloud.com. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres.
À la semaine prochaine.
Bisous tout le monde.